SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
In Sweden, we believe in just the right amount. Embracing balance, minimalism and simplicity. Something that Volvo believe in too. And when it comes to choosing your next car, we believe in just the right amount of choice. Between petrol, plug-in hybrid and fully electric. There's a Volvo for everyone. So visit your local Volvo retailer to learn which one is right for you. Volvo.
Vous êtes avec SBS French.
Numéro 171. Je suis comme à chaque épisode, Christophe Mallet, qui vous joint donc pour cet épisode avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On a un gros morceau aujourd'hui pour notre Europe Paris numéro 171. En deuxième partie de cet épisode, nous parlerons du deal ou non des avions et des rafales français pour l'Ukraine. Ce sera en deuxième partie de notre épisode, mais là tout d'abord, bien le plus gros des morceaux presque dans la politique française depuis un bon moment, l'affaire, l'histoire des affaires de Nicolas Sarkozy, ancien président français, donc le président Sarkozy, qui a donc aura passé 21 jours, 3 semaines en prison, qui est sorti récemment en appel. Nathanaël, expliquez-nous un petit peu les tenants et aboutissants de toute cette histoire, puisque c'est très, 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 très complexe.
Nicolas Sarkozy, Christophe, a obtenu effectivement 20 jours après son incarcération sa remise en liberté. Dans une affaire où il a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans le fameux dossier libyen. S'il a été libéré, le président Sarkozy, Christophe, il a tout de même été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès en appel. Et c'est là où c'est intéressant pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS. On peut se demander pourquoi et comment c'est possible que le président français ait été libéré alors qu'il avait 5 ans de prison. C'est tout simplement du droit et rien que du droit. Alors, il y aura aussi un peu de politique, on pourra en parler, mais en termes de droit, en fait, cette remise en liberté, Christophe, elle ne s'appuie pas sur les mêmes critères que ceux qui ont conduit à sa condamnation. Je vais le résumer pour nos auditeurs. Mais parce que le président, en fait, Sarkozy, a fait appel, les critères de sa remise en liberté ont été étudiés au vu de cet appel et non au vu de sa première condamnation. Ça, c'est pour le droit, en fait. C'est parce que le président Sarkozy a fait appel qu'il a été libéré au bout de 20 jours, mais qu'il reste tout de même, encore une fois, soumis à un contrôle judiciaire. Et alors, en fait, pourquoi est-ce que le président Sarkozy, au début, a été mis en prison ? Eh ben, c'est autant pour protéger la société, j'allais dire, que pour le protéger lui. C'est ce qui expliquait en fait, de par la gravité exceptionnelle de ce qui s'est passé pendant cette affaire libyenne, mais aussi, encore une fois, parce que le président Sarkozy devait en fait être protégé parce qu'il était un accusé, j'allais dire, un peu différent des autres, non pas parce qu'il est président de la République, mais évidemment parce qu'il est plus médiatique. Et donc tout ça, ça avait entraîné le fait qu'il a été incarcéré immédiatement. On en avait parlé, hein. Est-ce que il y a une suspension, est-ce qu'on va attendre, etc. Mais le fait qu'il ait fait appel, en fait, on a remis, si vous voulez, dans la balance les critères, les mêmes critères, en fait. Et là, on a jugé que maintenant, il était apte à, encore une fois, être en dehors de l'institution pénitentiaire, mais toujours sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès en appel, avec d'ailleurs certaines conditions. Notamment, Christophe, l'interdiction d'entrer en contact avec Gérald Darmanin, chose qui avait fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours en France. Voilà.
Oui, si on parle justement, on s'attarde 30 secondes sur cette clause avec Gérald Darmanin. Et expliquez-nous pourquoi, parce qu'en fait Gérald Darmanin, donc ministre de la Justice dans le nouveau le gouvernement Lecornu numéro 2, il a occupé le poste sur la place Beauvau que Nicolas Sarkozy a occupé avant d'être président aussi. Donc du coup, il y a un lien entre les deux. On sait qu'il y a une forte relation entre les deux. Et Gérald Darmanin est allé rendre visite à la santé, donc à la prison de la santé, à son ami, on va dire entre guillemets, en tout cas au prisonnier Sarkozy. Et ça a fait couler beaucoup d'encre en France.
Alors ça a fait couler beaucoup d'encre pour une, j'allais dire, une raison qui est assez compréhensible, ce qui est celle de l'indépendance de la justice et de de la potentialité de porter atteinte en fait à l'indépendance de la justice si le garde des Sceaux, si vous voulez, se rend au chevet de son ancien mentor et lui exprime publiquement sa compassion, parce que en fait c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est Gérald Darmanin, peut-être pour nos auditeurs d'Europa Voice, d'SBS qui sont un peu moins dans la politique, Gérald Darmanin c'est effectivement le garde des Sceaux, le ministre de la Justice en France, mais c'est aussi celui qui a été formé, amené à la politique par Sarkozy. Donc il y a une relation aussi, j'allais dire, au-delà du côté professionnel, qui est très personnelle entre les deux. Et donc ça, effectivement, ça a été beaucoup critiqué. Et l'idée, en fait, que Nicolas Sarkozy ne peut entrer en contact avec Gérald Darmanin, elle est double. D'abord, elle n'est pas isolée, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans une série d'obligations qui s'appliquent à Nicolas Sarkozy pour limiter les risques de pression et de concertation avant son procès en appel. Donc, par exemple, il a interdiction de sortir du territoire, il a interdiction d'entrer en contact avec ses co-accusés, et il a interdiction aussi, Nicolas Sarkozy, d'entrer en contact avec d'anciens responsables libyens. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, encore une fois, pour Gérald Darmanin, c'est vraiment, avant le procès en appel, de s'assurer que la justice soit indépendante. Et il n'a pas le droit non seulement d'entrer en contact avec Gérald Darmanin, mais Nicolas Sarkozy n'a pas non plus le droit, Christophe, d'entrer en contact avec de hauts responsables de la justice en France. Encore une fois, Nicolas Sarkozy a la potentialité de le faire de par sa fonction. Et donc, c'est pour éviter toutes ces potentielles compromissions que ces listes d'interdiction maintenant s'appliquent à Nicolas Sarkozy une fois remis en liberté, mais sous contrôle judiciaire.
Et si on revient un petit peu en arrière sur le jugement, donc il a été jugé et écroué pour association de malfaiteurs. Tout ça, c'est autour du financement de sa campagne et autour d'un financement avec l'argent libyen. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de le réaccuse une troisième fois, qui depuis est décédé. Enfin, c'est vraiment une sacrée nébuleuse, cette histoire.
En fait, cette histoire, alors déjà, il faut bien comprendre que c'est très difficile parce que ce procès-là, c'est le procès du financement de la campagne présidentielle de 2007, mais il s'inscrit dans, j'allais dire, une histoire judiciaire assez exceptionnelle pour Nicolas Sarkozy, ou d'autres affaires, notamment l'affaire L'Oréal, par exemple.
L'affaire Big Malion.
L'affaire Big Malion, toutes ces affaires-là ont lieu dans une période de temps finalement assez resserrée. Mais cette affaire, et ça c'est important de le rappeler, Nicolas Sarkozy, il avait été innocenté dans les autres affaires. Et dans cette affaire, ou en tout cas les procès sont encore en cours et il est donc considéré comme présumé innocent. Dans cette affaire-là, Nicolas Sarkozy, de quoi a-t-il été reconnu coupable, Christophe? Il a été reconnu coupable d'avoir laissé ses collaborateurs solliciter le dictateur libyen Muammar Kadhafi pour financer sa campagne de 2007. Donc c'est pas non plus Nicolas Sarkozy qui aurait lui-même, j'allais dire, directement bénéficié de ces financements, mais c'est une association avec ses collaborateurs qu'il a laissé recevoir ses financements illégaux de la part de Muammar Kadhafi. Et c'est pour ce point-là.
Mais la clé, désolé de vous interrompre, Nathanaël, la clé dans cette histoire, c'est que en France, dans le droit français, quand on n'a pas besoin de faire acte de corruption, le fait même de penser à faire de la corruption, on fait déjà de la corruption. Et ça, c'est ce qui a joué en la défaveur de Nicolas Sarkozy.
C'est ce qui a joué en la défaveur de Nicolas Sarkozy. Et c'est aussi, encore une fois, d'avoir, quand on dit d'avoir laissé ses collaborateurs bénéficier de ses relations, de ses financements, c'est d'avoir été au courant. Donc, c'est plus simplement que d'y avoir pensé. C'est, j'allais dire aussi, tribaliser un peu ça, de ne pas l'avoir arrêté et d'avoir laissé ses collaborateurs organiser cela en ayant connaissance, en tout cas d'un minimum d'informations, pour être condamné par la justice en première instance. Et c'est ça ce qui s'est passé, c'est ça qu'on est en train de juger avec Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, je reviens sur cette question de la remise en liberté. En fait, puisque Nicolas Sarkozy a fait appel, on juge maintenant le prévenu et la gravité des faits, on le juge non pas dans le cadre de la demande de remise en liberté, encore une fois, mais dans le cadre de la détention provisoire. Parce qu'il a fait appel, donc il est toujours présumé innocent. Et donc, comme il est toujours présumé innocent, on se demande est-ce qu'il doit encore être en détention provisoire. Et c'est là où il y a cette acrobatie juridique, mais en fait, qui est prévue par le droit. Et ben, on se demande est-ce que le maintien en détention Donc la détention provisoire, est-ce que c'est l'unique moyen de garantir qu'il y a un procès équitable, etc., etc. Et donc là, les juges se sont prononcés, se sont dit, bah non, en fait, Nicolas Sarkozy peut être mis en liberté. Ça nous permettra quand même de protéger les preuves, ça nous permettra d'empêcher les pressions, ça nous empêchera de prévenir une fuite, une récidive. Et à ça, on a sorti certaines conditions dont on a parlé, Christophe, il y a quelques instants. Non contact avec la justice, non contact avec les co-accusés, etc. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que on ne reproche pas quelque chose de différent à Nicolas Sarkozy. On estime juste que le fait d'être remis en liberté dans le cadre des critères qui ont prévalu pour la détention provisoire permettent quand même au procès d'avancer, j'allais dire, en accord et en ligne avec ce que la justice requiert. Donc ça ne change pas sur le fond, ça change sur la forme.
Voilà, sûrement beaucoup plus sereinement, et c'est sûrement pour ça que ces choses ont été faites. Ce sera en tout cas une affaire à suivre. On se fera un plaisir de suivre cette histoire pour vous dans des prochains épisodes d'Europa Voice. Voilà, on fait une courte pause et quand on revient, nous parlons de gros avions pour l'Ukraine dans quelques instants.
In Sweden, we believe in just the right amount. Embracing balance, minimalism, and simplicity. Something that Volvo believe in too. And when it comes to choosing your next car, we believe in just the right amount of choice. Between petrol, plug-in hybrid, and fully electric, there's a Volvo for everyone. So visit your local Volvo retailer to learn which one is right for you. Volvo.
SBS Chills, Chillest 100. It's Australia's most relaxing countdown. Voting is open at sbs.com.au/chill, which could win you an SBS Chill merch pack. The Chillest 100, New Year's Day on SBS Chill.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Deuxième partie d'Europa Voice, toujours Christophe Mollet, toujours avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, on va parler maintenant, eh bien, en gros, du deal de la semaine. Ça a été annoncé il y a quelques jours. La France vendra une centaine de rafales à l'Ukraine. Alors, c'est pas tout de suite, mais la question se pose sur quelle rafale, puisque il y a quand même pas mal de questions sur le moment où l'Ukraine aura besoin de ces rafales et la livraison et la date de livraison signée avec le super VRP français, le président Emmanuel Macron.
Alors c'est effectivement une rencontre assez historique. C'est pas la première entre le président français et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais cette semaine, le chef d'État français a réaffirmé donc son engagement envers l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est que si on se rappelle des nombreux épisodes d'Europa Voice qu'on a consacrés à l'Ukraine du point de vue français, Christophe, mais aussi du point de vue européen, on avait à cœur de dire que l'aide de la France et de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine n'était pas qu'une aide militaire. C'était une aide aussi en termes de moyens humains, une aide humanitaire, une aide financière, etc. Et donc là, on a l'impression qu'il y a quand même la réalité de la guerre et la réalité du terrain qui refait surface et que les efforts diplomatiques, pas seulement français, mais du reste de l'Europe, ont l'air de s'incliner vers maintenant, il va falloir fournir quand même des armes, des avions à l'Ukraine et prendre en compte cette question notamment des drones pour aider l'Ukraine à se défendre et aussi à atteindre ses objectifs stratégiques. Donc, j'allais dire, c'est dans la continuation, Christophe, de l'engagement du président français vis-à-vis de l'Ukraine, mais c'est aussi un petit changement léger, mais tout de même de cap pour le président français.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, bon, la guerre en Ukraine, elle dure depuis plus de 1300 jours. Mais là, la France vend 100 rafales à l'Ukraine. C'est une lettre d'accord d'achat donc de ces 100 rafales sur 10 ans. Donc, est-ce qu'on pense à un après-guerre en Ukraine? Est-ce qu'on pense à une défense d'après-guerre? Ou est-ce qu'on se protège pour une guerre qui pourrait durer presque 10 ans?
On se projette surtout dans un continent où la Russie teste, j'allais dire, les limites, pas seulement en Ukraine, mais aussi aux frontières de l'Union européenne. Et on peut revenir sur les nombreuses incursions de drones ou d'objets russes au sein de territoires européens, dans les pays baltes, même en Belgique, etc.
Et on parle de nombreux aéroports ont été bloqués avec des drones, etc.
Voilà. Ça, et là, on n'est plus sur le front de l'Est. Hein. Là, moi, je vous parle de la Belgique, je vous parle de l'Europe historique, je vous parle en fait de l'Allemagne, de l'ensemble du continent européen. Donc, on est aussi quand même dans ce cadre-là, ce qui a quand même beaucoup changé en un an, parce que ce genre de choses-là, on n'en parlait pas ou très peu il y a un an. Et surtout ces épisodes-là, Christophe, se sont démultipliés ces derniers mois. Donc, on est dans ce contexte-là, et on est dans le contexte aussi, encore une fois, d'une Europe qui discute le retour potentiel de la guerre en son sein, du retour de la conscription militaire. Alors, on a l'exemple le plus frappant, qui est l'exemple allemand, hein, puisque l'Allemagne n'avait pas le droit d'avoir, a été désarmée, n'avait pas le droit d'avoir une armée de métier après la Seconde Guerre mondiale. C'est en train de changer ça aussi. Donc en fait, c'est simplement traduction sur le terrain de ce à quoi on se prépare en Europe pour les prochaines années. Ça ne veut pas dire que c'est une guerre qui va durer 10 ans, mais en tout cas, ça veut dire que la menace russe s'inscrit maintenant non plus seulement en Ukraine et sur le court terme, mais sur l'ensemble du continent européen et sur du plus long terme, Christophe.
Et avant de parler de la suite donc de cette guerre, etc., il y a un vrai défi logistique, par contre, pour la France, si on est un petit peu plus terre à terre, c'est que 100 rafales dans les 10 prochaines années, c'est quand même un sacré défi pour les équipes de Dassault pour construire ça, parce que la question se pose même de est-ce que la France devra donner ses propres rafales pour en avoir des nouveaux. Tout n'est pas forcément bien clair là-dessus non plus.
Non, c'est une lettre d'intention. D'abord, alors même s'il y a une signature, mais surtout c'est l'idée aussi de, j'allais dire, mettre l'accent sur les efforts industriels que la France doit fournir. C'est se recentrer aussi. Il y a beaucoup d'articles qui parlent de l'ère post-licorne en ce moment, c'est-à-dire qu'on est arrivé aussi un peu à la fin d'industries plus légères, start-up, etc. Et le défi pour la France de se repositionner sur des industries lourdes, de se repositionner sur du savoir-faire français, et évidemment, sans faire la promotion, mais entre les Safran, Thales et autres fleurons industriels et de défense français, il y a aussi une carte plus que militaire, Christophe, il y a une carte aussi économique à jouer pour le président français, et notamment dans le cadre de sa fin de mandat.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que des rafales, la France a mis énormément de temps à en vendre. Puis à partir du moment où, je crois que la première vente, c'était François Hollande en Inde, hein, si je m'abuse, il y a un bon moment. Mais depuis, le Rafale est assez présent quand même dans les nouveaux achats d'avions de chasse, d'avions d'attaque et d'avions de défense.
Oui, et puis n'oubliez pas aussi, Christophe, que si c'est pas un Rafale, c'est un avion américain. Si c'est pas un Rafale et que c'est un avion américain, c'est-à-dire que les technologies qui vont avec les data, le savoir-faire, c'est aussi le savoir-faire, les data, les technologies américaines. Donc, au-delà de la pièce lourde d'artillerie, il y a aussi derrière, j'allais dire, toutes les questions de souveraineté industrielle qui sont posées. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important que la France sache se positionner dans ce monde multipolaire et soit capable de fournir ses rafales. Vous avez mentionné l'Inde, mais aussi à l'Ukraine et sur d'autres marchés. Parce qu'encore une fois, la nature a la horreur du vide. Donc, de toute façon, si ce ne sont pas les rafales, c'est une ingérence industrielle autre. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et sur le continent européen, la France a raison, d'une certaine façon, de promouvoir le Made in France, en tout cas le Made in Europe, pour garder aussi ces aspects de souveraineté économique, de souveraineté technologique et de souveraineté industrielle.
Absolument. Voilà, ça conclut notre Europa Voice numéro 171. Merci, Nathanaël.
Merci, Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
In Sweden, we believe in just the right amount. Embracing balance, minimalism and simplicity. Something that Volvo believe in too. And when it comes to choosing your next car, we believe in just the right amount of choice. Between petrol, plug-in hybrid and fully electric, there's a Volvo for everyone. So visit your local Volvo retailer to learn which one is right for you. Volvo.